Bonjour à tous et vous, bienvenue Alexandra Goujon. Vous êtes très familière de l'Ukraine et chaque jour, je peux dire que vous êtes l'amie des Ukrainiens qui sont en guerre depuis 8 années, depuis 2014. Bonjour et merci d'être là avec nous. Bonjour. Malgré les bombes, malgré les décombres et les morts, les Ukrainiens, vos amis, ne se laissent pas vaincre. D'où viennent d'abord ce courage et cette résistance dans leur histoire et j'ai envie de dire leur orgueil national?
Je pense que depuis l'Empire russe, les Ukrainiens, en fait, cherchent à exprimer leur culture, hein, cherchent à créer un État, ce qui a été le cas notamment au début du XXe siècle, avec une courte indépendance. Et puis, il y a des moments de traumatisme, hein, la famine ukrainienne de 1932-1933, et cette indépendance qui existe depuis 1991.
Depuis le 24 août 1991. Et là, ils défendent avec beaucoup de fierté leur drapeau, avec deux couleurs, le jaune et le bleu. Pourquoi ? Ces deux couleurs, elles ont un sens.
Oui, tout à fait. En fait, elles représentent, le jaune représente les blés et le bleu, le ciel ukrainien.
Oui. Alors, Poutine, d'après ce que j'ai lu dans votre livre, considère depuis toujours les Ukrainiens comme des paysans. Il veut les soumettre, à la fois briser l'État et la nation. L'Ukraine, d'après lui, lui appartient. Quand il dit « on ira jusqu'au bout de nos objectifs et qu'on les réussira », qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce que ça veut dire que le prochain objectif, c'est plein feu sur le Donbass, c'est les ports du sud de l'Ukraine ?
Au départ, de ce qu'on a compris, l'objectif, c'était quand même Kiev, hein, c'est-à-dire le centre du pouvoir politique. Et cet objectif, effectivement, semble avoir bougé. Et aujourd'hui, bien évidemment, c'est ce que disent les autorités russes, hein, on se focalise sur le Donbass. Mais je crois qu'en fait, et c'est le cas depuis 2014, l'idée c'est de briser l'État ukrainien, de le déstabiliser en profondeur.
Oui, pour s'en débarrasser.
Pour l'intégrer
dans un ensemble.
Tout à fait. En fait, le problème de Vladimir Poutine, c'est qu'il a voulu absolument ramener à lui, hein, l'Ukraine dans ce qu'il appelle le monde russe. Et n'y arrivant pas, en fait, eh bien, il cherche à briser à la fois l'État ukrainien et la capacité du peuple ukrainien, en fait, à se gouverner lui-même.
Vous avez vu qu'il réorganise l'armée russe avec un nouveau général, Dvornikov, qui vient presque de Syrie. Et il écarte les deux généraux qui étaient avec lui et qui étaient pourtant des proches. Chaque année, le 9 mai, la Russie, vous le savez aussi bien que moi, commémore avec beaucoup d'éclat la victoire de l'Union soviétique en 1945 contre le Reich d'Hitler. En 2022, le 9 mai, c'est dans un mois. Poutine pense qu'il aura fini avec l'Ukraine dans un mois. Est-ce qu'il rêve ? Est-ce que c'est possible ?
Tout dépend de l'objectif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il reste à peu près un quart du Donbass à récupérer. Et donc, c'est sans doute cet objectif qu'il va chercher. La question, c'est de savoir s'il va s'arrêter là. Est-ce que ce sera une demi-mesure acceptable, éventuellement pour le 9 mai? Et puis, de toute façon, cet objectif n'est pas encore atteint. Il reste encore de lourds combats à mener.
Oui, mais vous avez bien dit que Kiev, il y a presque renoncé momentanément. Ou il y a renoncé parce qu'il y a une résistance et que son armée n'est peut-être pas capable d'y aller et de vaincre cette ville, cette capitale.
Oui, tout à fait. Et on peut dire aussi que l'objectif n'était peut-être pas forcément strictement militaire. C'est-à-dire qu'en fait, cette invasion, elle provoque aussi une déstabilisation du pouvoir en place. Et on a vu que Zelensky, eh bien non, n'avait pas fui Kiev. Et donc peut-être que là, il était beaucoup plus difficile de prendre cette capitale.
De 1932, vous l'avez dit tout à l'heure, en 1945, Staline et Hitler, à tour de rôle, on a envie de le dire, ont martyrisé l'Ukraine, les Pays-Baltes, la Biélorussie, que vous connaissez bien. Il y a eu 1 million de Juifs exterminés. Il y a eu aussi la Shoah par balle dont a parlé le père Desbois, notre ami. Combien il y a eu de victimes au total et des civils pendant cette période ?
En fait, il y a eu plusieurs millions de victimes. Il y a notamment beaucoup de soldats de l'armée rouge qui sont morts. Je rappellerai aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a le phénomène aussi qu'on appelle des villages brûlés, hein, de villages qui ont été brûlés. Ça, c'était plutôt après l'extermination des Juifs et notamment au moment de la retraite des Allemands.
Oui. Le grand historien américain que vous connaissez, Timothy Snyder, vient aujourd'hui de dénoncer le génocide. Il y a quelque temps, il expliquait le supplice, la famine sur ce qu'il appelle les terres de sang. Il en fait l'événement central et durable de l'histoire de l'Europe. Timothy Snyder nous l'avait raconté dans un bibliothèque Médicis il y a quelques années. On va l'écouter. Un extrait.
Staline des goulags, des camps de travail.
Oui, oui, oui.
Il écrase l'Ukraine. Et vous dites bien, Timothy Snyder, que sa méthode, c'est un mot qui va revenir pour chacun des deux camps d'ailleurs, l'affamement. Combien de millions d'affamés morts dans l'Ukraine?
Dans l'Ukraine, à peu près 3 millions. 3 millions. Hmm. Dans l'Ukraine, les orphelins, c'était les enfants qui ont survécu. Les enfants des parents qui
les
ne voulaient pas
manger.
Oui,
votre phrase, c'est un orphelin était un enfant que ses parents n'avaient pas mangé. Et vous dites, des mères et des pères tuèrent leurs enfants et les mangeaient. Mais d'autres parents invitaient leurs enfants à se nourrir de leur corps s'ils mouraient. Ce qui est tout à fait horrible.
Staline a collectivisé et il a pensé, alors on va utiliser la collectivisation contre les villes soviétiques. Alors, pas contre les Ukrainiens, mais contre les villes soviétiques, contre les Juifs. Et pour nous, on va organiser famine pour une deuxième fois, vous avez raison, mais contre l'Union soviétique et pour nous. Mmh. Les gens en France, les gens de la gauche, ont pensé qu'il n'y a que deux possibilités, le fascisme et le communisme. Et on a compris que la démocratie ne se défend pas très fort. Et c'est la vérité. Alors, on a pensé que les soviétiques sont les secours pour la démocratie. C'était faux, mais quand l'alternative semble être les nazis, c'est compréhensible. Mais maintenant, il ne faut plus orienter nos pensées selon les nécessités politiques de cette époque. Il faut comprendre ce qui s'est passé
chez
les soviétiques.
Avec la distance de l'histoire.
C'est une histoire pour nous tous.
Oui, oui. Mais pourquoi ça demeure? Est-ce que ça veut dire qu'Hitler n'est pas tout à fait mort dans certains esprits?
On dit qu'on a compris cette histoire. On n'a pas compris cette histoire. Les gens d'aujourd'hui sont très pareils aux Allemands des années 30. La différence n'est pas très grande.
Ah bon?
Ah bon. La plus importante différence entre nous et les gens des années 30, c'est la nourriture. Pour nous, la nourriture est pas chère et disponible.
Vous voulez dire que si elle devenait chère et indisponible,
voilà.
Qu'est-ce qui se passerait?
Voilà.
La famine.
Voilà.
Les camps.
Voilà, la famine et les réactions
l'étranger.
Et les réactions politiques.
Voilà, ce cannibalisme et cette barbarie qui Timothy Snyder dénonce ne s'oublie pas. Je pense que Zelensky et son peuple le savent et s'en souviennent. Ce week-end, des dirigeants européens, Ursula von der Leyen et surtout Boris Johnson, qu'on voit beaucoup à l'image, ont défilé à Kiev. Bien sûr, pour livrer des armes, j'ai vu qu'ils livraient des missiles contre les navires, des chars, de l'argent, des drones, mais aussi pour la photo et la vidéo avec Zelensky, non?
Oui, bien sûr, mais c'est extrêmement important aussi de montrer que le pouvoir politique, finalement, qu'on a cru peut-être vaciller, est en place aussi. Et cette promenade, en fait, dans Kiev, entre Boris Johnson et Zelensky, c'est aussi montrer que Kiev continue à revivre. Et d'ailleurs, il y avait des passants qui interrogeaient les chefs d'État. Donc, c'est aussi pour ça. C'est le soutien occidental, mais c'est aussi montrer que Kiev continue de revivre.
C'est très spectaculaire. Et symbolique, et j'ai envie de dire qu'il doit faire des jaloux, Monsieur Johnson. Dans votre livre, vous décrivez l'Ukraine d'avant-guerre. Vous dites que c'est un pays qui était divisé, qui était très corrompu, avec trois groupes d'oligarques. L'un d'eux qui s'appelle Viktor Pinchuk, et vous dites pétrole, finance, médias, et où était bien vu à Paris. Vous savez pourquoi?
Non, je... Enfin... Les oligarques, il n'y a pas que lui,
bien sûr.
Il y a beaucoup d'oligarques et il y a des oligarques russes aussi qui possèdent un certain nombre de biens
vous les avez
en France,
cités.
En fait.
Mais pourquoi je cite Pinchuk? Parce qu'il a offert un don à la France, 1 million d'euros, pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. L'agression russe va donc reprendre dans les prochaines heures, sans aucun doute, avec le nouveau général. L'Amérique et l'Europe, on le voit, livrent des armes. Jusqu'où il faut aller? Quand un Poutine dit qu'il y a la menace du nucléaire?
C'est toute la question. C'est-à-dire que, et c'est ce que dit d'ailleurs Volodymyr Zelensky, il dit on voit bien que vous continuez, vous, à l'Ouest, à avoir peur de la Russie.
Ouais, mais nous avons peur, même s'il y a la menace de l'emploi.
C'est la question de la dissuasion nucléaire, je ne sais pas. Pour l'instant, en tous les cas, effectivement, Zelensky a bien compris que les Occidentaux n'interviendraient pas eux-mêmes militairement.
Mais
c'est pour ça qu'il demande les
est-ce
armes.
Est-ce qu'ils ont raison, vous qui aimez tellement l'Ukraine?
Je ne peux pas me prononcer là-dessus, je ne suis pas décideur politique.
Oui, mais si vous l'étiez, qu'est-ce que vous feriez? Si vous conseillez un patron politique.
D'abord, je ne
serais
pas toute seule,
politique.
J'imagine. Ouais. Donc, voilà, on voit bien aussi qu'il y a une concertation entre les Occidentaux et que je pense que cette décision, si elle était prise, elle serait prise sans doute dans le cadre d'une coalition.
En même temps, hier, Zelensky a répété que l'Ukraine est toujours prête à des pourparlers avec la Russie pour sortir de ce cycle de 8 années de violence. Est-ce qu'il a la liberté de céder 1 pouce du territoire ukrainien?
C'est la deuxième question très difficile des négociations. Tout ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, en tous les cas, Zelensky a demandé un tête-à-tête avec Poutine depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a demandé lorsqu'il est arrivé au pouvoir.
Et il croit qu'il va l'obtenir?
Je ne sais pas. Il le demande parce qu'il pense qu'il veut montrer en tous les cas sa bonne volonté. Et je crois qu'il le disait dans une interview encore hier où il disait que l'objectif, c'est d'arrêter la guerre. Donc après, on verra le type de concession. On sait qu'aujourd'hui, ce que demande Zelensky, c'est l'arrêt de la guerre avec des garanties de sécurité. Garanties de sécurité qui avaient été fournies par le fameux mémorandum de Budapest en 1994, par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie.
Respecté.
Et la Russie qui a signé un papier disant qu'elle elle garantissait l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
Quand les Ukrainiens se battent à Kiev, Kherson, Kharkiv, Mariupol, la ville symbole et Odessa peut-être, ils se battent évidemment pour leur pays. Parce qu'ils se battent aussi pour l'Europe et l'Amérique démocratique, pour les libertés, les nôtres.
Ouais, je pense que oui, parce que c'était déjà le message au moment de la révolution de Maïdan, en fait. On est dans le prolongement de cette révolution qui montre l'attachement, on va dire, effectivement, aux valeurs démocratiques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le combat, c'est ce que disent les Ukrainiens, c'est un combat pour la souveraineté, pour l'indépendance, mais aussi pour la liberté. Ceci dit, l'indépendance et la liberté vont de pair.
C'est un beau couple. Mais est-ce qu'on n'idéalise pas trop les Ukrainiens aujourd'hui?
C'est un peuple aussi hétérogène, politiquement, socialement, culturellement, que beaucoup d'autres peuples. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on est du côté des Ukrainiens, et c'est normal parce qu'ils sont menacés. Ils sont menacés en tant qu'État et en tant que nation. Mais voilà, il y a des travers dans la société ukrainienne.
Mais parce qu'on pense aussi qu'ils sont nos voisins, qu'ils sont pas loin, et que ça peut arriver à quelques pays voisins également de l'Ukraine. Le titre de votre livre que nous avons montré, c'est « De l'indépendance à la guerre ». Mm-hmm. Quand et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on passe de la guerre à l'indépendance? Qu'est-ce qu'il faut?
Il faut que la Russie arrête d'avoir des prétentions territoriales, politiques, économiques et autres sur l'Ukraine. La Russie est le plus grand pays du monde. Pourquoi a-t-elle absolument besoin de cette Ukraine pour exister?
Mais elle a besoin d'une Ukraine aussi neutre et pas sous la domination de qui que ce soit et avec peut-être ce qu'elle considère comme des menaces pour son propre territoire. Mais ça, c'est autre chose. Merci d'être venu. Alexandra Goujon, et je vous souhaite une bonne journée. C'est une journée qui est électorale. Les votants ont commencé à se rendre dans les urnes, mettre leur bulletin dans les urnes, et il y aura une soirée Europe 1 CNews qui va commencer à 19h, je suis sûr que vous la regarderez. Bonne journée.